RMC Intégral Sport.
Georges Quirino.
Salut à tous et à toutes et bienvenue dans l'Intégral Sport. On est ensemble jusqu'à 19h. Vous l'avez entendu dans la voix de Christophe Cessieux. Évidemment, vous allez les retrouver dans un instant sur la route de la Grande Boucle à 19h pour l'After Tour et revenir sur ce chrono remporté par Remco et Evenepoel. Nous, on va parler vélo, on va parler foot, on va parler basket aujourd'hui avec Stephen Brun. Salut Steve.
Salut Giorgio, salut tout le monde. T'es en forme?
Ouais, pas mal. Écoute, hier, on a fait une belle émission.
Très correct.
Voilà. Enfin, je me note moi-même, hein, tu vois. T'es pas trop mal. Il va falloir garder le même niveau quoi, aujourd'hui.
Ouais, et une heure de moins qu'hier, mais une heure bien complète.
Hein. Ouais, en principe, c'est là où c'est un peu plus difficile. Hein, quoi. Il faut tout concentrer
c'est
sur
dense,
une heure.
Dense.
Ouais, il faut garder le rythme, la dynamique. C'est ce qu'on va essayer de faire, un peu comme l'a fait Remco Evenepoel sur ce chrono il y a quelques instants. Allez, on va parler de foot, je vous le disais, parce que. Alors, c'est vrai que pendant la Coupe du Monde, pendant un mois, on a complètement oublié les clubs. Franchement.
Passer aux oubliettes. Ouais. La Ligue 1 qui a repris, hein, tous les mecs sont en stage.
Pas qu'à repris, hein, ils n'ont pas joué. Quoi,
oui, la pré-saison a repris pour tous les joueurs.
Leader. Il y a le PSG leader déjà
le PSG leader déjà, non, pas par ordre alphabétique, ça va être Angers qui est leader.
Est-ce que tu sais qui sont les promus de la Ligue 1? Tu te rappelles ou la Coupe du Monde
t'a
fait
Les promus de la Ligue 1. Et là, tu m'as attrapé.
Eh ouais, là, je t'ai complètement attrapé.
Les promus, il y a 3.
Ouais, et si je te dis 24 heures.
Le Mans, bien sûr. Avec Patrick Vidéra.
Rapport aux 24 heures du Mans et tout ça pour le moyen mnémotechnique. Bah oui, il va falloir se replonger dedans parce que tu sais que c'est dans un mois tout juste la première journée. Ce sera Marseille-Strasbourg le 21 août.
Il y a plein de nouveaux visages sur les bancs de touche surtout. Bah,
c'est pour ça qu'on va se poser la question. Est-ce que vous pensez que votre club de Ligue 1 a réussi son mercato pendant la Coupe du Monde? Parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de mouvements qui vous ont peut-être échappé.
C'est quoi ton club de Ligue 1, toi?
L'OGC Nice. Enfin, je suis niçois.
On lui vient pas de talent, Oli.
C'est ça, voilà, exactement. On va voir ce qui va se passer. Hein. C'est vrai que tout le monde est un peu dans l'inconnu hein, sur cette ligne de départ pour la Ligue 1 dans un mois. On en parle avec vous, les auditeurs et auditrices, évidemment, au 32-16. Hein, vous participez au débat. On lit vos messages sur WhatsApp au 06-12-424-424. Et puis, tiens, on va savoir pourquoi Wemby revient avec les Bleus pour la première fois depuis Paris 2024, Steve.
Ah, deux ans d'attente.
Ben voilà, c'est
deux ans d'attente et on est excité.
Ben, il est excité parce qu'il va revenir pour les matchs amicaux.
Matchs amicaux contre la Serbie, donc deux fois Nikola Jokic. Et
pas
puis
mal.
Deux matchs pour la qualif pour continuer à la bonne campagne de qualification pour la Coupe du Monde. Et puis en plus de Wembanyama, il y a Evan Fournier aussi parce que ces deux garçons-là, on ne les avait pas revus en bleu depuis Paris 2024.
Qui serait un invité pertinent pour parler de ça?
Éventuellement le coach, non? Freddy Photo?
Ah, bah super, il sera avec nous tout à l'heure alors.
En direct des States, il est en vacances aux States, Freddy Fox.
Ah, j'ai l'impression qu'on est souvent aux States. Allez, vous participez, je vous le disais, au standard évidemment sur WhatsApp, mais tout de suite on retourne sur la route du Tour. Où nous attend Jérôme Coppel qui est resté avec nous de la Dream Team Cyclisme. Salut Jérôme.
Salut Georges, salut.
Salut
Stephen.
Jérôme.
Bah en plus, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'il y ait Jérôme. C'est notre rouleur.
C'est du contre la montre.
Bien sûr. Mais toute l'année, il nous dit on parle pas assez de chrono.
Tu sais que tout à l'heure, je l'entendais commenter. Et au fond de lui, il disait Evenepoel, à mon max, je pense que j'aurais pu le tenir.
Hein. Ouais, franchement.
t'es fou. Jérôme Coppel à son max aujourd'hui, c'est 50e, je pense, au mieux.
Ah, mais c'est vrai.
T'as une petite estime de toi, Jérôme. Ah,
attends, Jérôme,
ouais, c'est vrai, mais là, c'est réaliste, je pense.
Jérôme, médaille de bronze au championnat du monde hein, dans sa carrière en contre-la-montre.
Ah, il y a 11 ans.
Ouais,
il y a 11 ans. J'ai reçu 11 ans.
C'était qui, 1 et 2?
Adriano Malori, 2e, et je me rappelle même
pas.
Okay. Ah ouais, du coup, c'est bête parce que c'est 10 mois qui t'a battu, je te dirais qui tu es.
J'ai oublié.
Bradley Wiggins? Non. Oh la colle, tu te rappelles
de
pas
de l'Est, ça va me revenir. Ça va me revenir.
Ouais, bah écoute, bon, ça t'a pas marqué en tout cas.
T'as plus la part off.
N'importe quoi. Allez, on se réconcentre, les amis. Jour de fête nationale en Belgique. Et ils vont bien le fêter parce que Remco Evenepoel est allé accrocher un deuxième succès d'étape sur cette grande boucle. C'est un back-to-back hein, parce qu'il y avait eu l'étape de repos au milieu, enfin la journée de repos. Il avait gagné, souvenez-vous, au plateau Solaison il y a deux jours en montagne. Et là, sur sa spécialité, il est le champion du monde en titre. Et il s'impose donc sur les 26 km entre Evian-les-Bains et Thonon-les-Bains de ce chrono. Il s'impose avec 28 secondes d'avance sur Pogacar, 1.04 sur Skelmose. Paul Sexa, c'est 4e à 1.16. Wow. Isaac Del Toro est 5e à 1.21. Il y en a un qui a pris un gros éclat, c'est Juan Ayuso, 15e à 2,22. À vous signaler, c'est important, l'abandon de celui qui était 5e du général ce matin. C'est Lipovic qui a chuté dans les derniers kilomètres et qui a dû abandonner. Je vous donne pour l'instant les données. Au général, voilà ce que ça donne. Pogacar leader, Evenepoel revient à 4,32. Del Toro, 6,51, 3e. Paul Sexas qui récupère 5 secondes à Del Toro, il est à 7 minutes 11. Ayuso, 5e à 9 minutes 22. 2, donc c'est que ça à 20 secondes du podium, c'est que ça à 2,49 de la deuxième place d'Evenepoel, évidemment au classement du maillot blanc, c'est que ça c'est désormais à 20 secondes de Del Toro. Voilà pour les données. Jérôme, victoire d'Evenepoel aujourd'hui, est-ce que la voie royale pour lui pour la deuxième place à Paris, c'est désormais ça? Est-ce que la deuxième place devient inaccessible pour ce Remco là? D'aller chercher Remco, alors, je veux dire.
Une voie royale, oui. En tout cas, il a deux minutes, plus de deux minutes d'avance sur Del Toro. Donc, il est confortablement installé à cette deuxième place. Mais la dernière semaine, les étapes qui restent là jusqu'à Paris sont vraiment les plus dures du tour. On sait que Remco Evenepoel, des fois, en très haute montagne, avec la très haute altitude, comme on aura vendredi et surtout samedi, bah, des fois, c'est là où il touche un petit peu ses limites. Mais il a quand même une avance confortable. Plus la confiance qu'il a. Alors, même s'il a perdu, tu l'as dit, Georges, son co-leader, Lipovic, aujourd'hui sur chute, il vient quand même de gagner deux fois au plateau de Solaison, il était vraiment très très fort, donc il est en pleine confiance. Oui, la deuxième place paraît alors acquise, non, parce qu'avec Remco Evenepoel on ne sait jamais, mais en tout cas il a pris une belle avance.
Mais justement, tu parlais de l'abandon de Lipovic, ça voudrait dire que sur la haute montagne, notamment les deux étapes avec l'arrivée à l'Alpe d'Huez, est-ce qu'il ne va pas être esselé, Remco Evenepoel, avec Del Toro, avec Pogacar, qui vont sûrement se mettre à deux contre, pas contre lui, mais contre Paul Sexas, et pour éventuellement faire craquer Evenepoel pour renvoyer Del Toro sur la deuxième place.
Oui, alors bah ça va être, j'imagine, le plan de Pogacar et de son équipe. Mais s'ils veulent vraiment faire ça, finalement, ça sera dans la dernière difficulté des étapes à chaque fois, comme on a vu au plateau de Solaison. Et ça veut dire que Tadej Pogacar devra utiliser la même stratégie qu'au plateau de Solaison, c'est-à-dire ne pas attaquer, rouler au rythme que Del Toro est capable de tenir. Et vu ce qu'on a vu dimanche dernier, le rythme de Del Toro convient parfaitement à celui de Remco Evenepoel. Donc c'est pas comme ça qu'ils vont pouvoir le distancer. Et après, Lipovic, c'est une grosse perte pour Remco Evenepoel et son équipe, parce que c'était le co-leader. Il est pas flamboyant, mais il est toujours solide en montagne. Il pète jamais vraiment. Il est vraiment très fiable. Mais après, il a quand même avec lui Jay Hindley, qui est un ancien vainqueur du Giro, ouais, avec lui. Cataneo, qui est pas un excellent grimpeur, mais qui a fait un très bon chrono aujourd'hui. Donc, Sim, qu'il est très en forme. Il a quand même une équipe solide. Et de toute façon, ça va souvent, comme souvent en dernière semaine, se passer sur les dernières ascensions. Et après, c'est un peu chacun pour soi, quoi.
Bon, évidemment, on va pas vendre n'importe quoi. On va pas vous dire que Evenepoel, qui est grappille sur Pogacar, va être un danger pour les Slovènes sur la dernière semaine. On le rappelle, effectivement, il y aura deux arrivées en altitude à l'Alpe d'Huez le vendredi et le samedi. Demain, il y a une étape difficile, hein, aussi, avec arrivée à Orcières-Merlette. Étape accidentée entre Chambéry et Voiron. Le chrono de Sexas, évidemment, était très attendu, Jérôme. Alors, il grappille un petit peu de temps à Isaac Del Toro. Del Toro qui a été plus fort qu'on imaginez, hein, peut-être face à Sexas sur cette distance. Hein.
Ouais, je me suis bien planté dans à peu près tous mes pronostics avant le tour, donc c'est bien d'avoir pris un spécialiste comme moi pour parler du chrono. Non, déjà je pensais qu'il y aurait moins d'écart que ça entre tous les favoris, parce que je connaissais le parcours, la descente était très technique, dangereuse, le final aussi. Je pensais pas qu'il y aurait autant d'écart dans la première montée, en fait. Typiquement, pour que Remco Evenepoel mette autant de temps, je m'y attendais pas. Et après, ben Skelmoseux, déjà énorme surprise, il vient prendre une troisième place, il a fait le chrono de sa vie, le Danois, et Del Toro fait un très bon chrono. On avait un peu des interrogations sur sa forme. Il était tombé dimanche. Le chrono arrivait deux jours après la chute. On sait que c'est jamais la meilleure chose. Mais il a pas explosé du tout. Del Toro, il est parti très fort. Il est un petit peu coincé quand même. Mais au final, il y a 5 secondes d'écart entre Sexas et Del Toro. Donc c'est encore un très bon chrono pour le Mexicain. Et voilà, notre Français a fait un chrono énorme. Je veux dire, il fait quatrième du tour à 19 ans. Léna disait dans le Polomètre, il y a deux ans, il était champion du monde junior. Enfin, on se rend pas compte que deux ans plus tard, il devrait être dans la catégorie espoir. Deux ans plus tard, il se bat pour le podium du Tour et le podium sur un chrono du Tour de France. C'est quand même énorme ce qu'il a fait.
Mais t'as raison de le rappeler, parce qu'on a l'impression que c'est la normalité, en fait, de voir Paul Sexas à ce niveau-là, alors qu'il est rookie sur un Tour de France, qu'il entame sa troisième semaine, il a jamais fait ça de sa vie, et qu'il est en train de se battre pour éventuellement faire un podium sur son premier Tour de France. Et t'as raison de le rappeler que c'est un exploit monumental, en fait, ce qu'il est en train de produire. C'est monstrueux.
Et C'est monstrueux et surtout on n'a jamais eu, même avant avec Thibaut Pinot, Romain Bardet qui ont déjà fait podium du Tour, on n'a jamais eu un Français capable de monter sur le podium et d'être aussi fort au chrono. Et il a que 19 ans. Ouais. Parce que ce qui lui a manqué aussi aujourd'hui à Paul Sexa, c'est nous on dit la caisse dans le vélo. Il lui a manqué. On sentait bien que dans la montée il tournait très très bien les jambes, mais il lui manquait une dent. Mais ça, tu gagnes cette puissance uniquement en participant aux plus grandes courses du monde, dont les grands tours. Del Toro, il a quand même 3 ans de plus. Il a déjà failli gagner un Tour d'Italie, etc. Il a forcément un peu plus de puissance que le Français. Donc c'est vraiment de bon augure. C'est incroyable le Tour de France que Paul est en train de faire. Mmh. Et d'ailleurs, on n'était pas d'accord avec Jérôme et Christophe le soir de Solaison parce qu'il disait qu'il avait fait une étape moyenne. Une étape moyenne, en fait, c'est comme l'objectif de Paul évolue, nos attentes évoluent aussi avec lui.
Ils grandissent peut-être de manière un peu démesurée
bien
parfois.
Bien sûr. Démesurée parce qu'au plateau de Solaison, il fait 4e de l'étape. Oui. Donc, exploit incroyable. Si ton objectif, c'est d'être dans le top 10, il fait une super étape. Si tu te dis que l'objectif de Paul maintenant c'est le podium, bah c'est vrai que l'étape pourrait paraître moyenne.
Mais
raison, il a 19 ans.
Mais t'as raison, parce que là on est en train de se dire que si dimanche finalement il est que 4e du Tour de France, on va pas être loin de se dire est-ce que c'est une déception pour Paul Sexa.
Si il était 4e derrière Pogacar, Del Toro et Evenepoel 2e, enfin, est-ce vraiment infamant en fait, hein,
Mais c'est pas infamant, mais on va dire ah, on pensait qu'il aurait pu battre Del Toro, alors que l'objectif, d'ailleurs, Decathlon, CMA, CGM avant le Tour n'en ont jamais parlé. Ils commencent à en parler depuis dimanche de l'objectif et eux ils parlent de top 5, donc il est largement dans les clous, mais en fait on se rend pas compte du Tour de France qu'il est en train de réaliser.
Tiens, on a Kevin qui nous appelle au 32-16 pour réagir, qui nous appelle de Loire-Atlantique. Salut Kevin, bienvenue dans l'Intégral Sport.
Salut Georges, salut Steve, salut
Bonjour
Georges.
Kevin.
Bon,
salut Kevin.
T'es comment toi ce soir là après la performance de Paul Sexa, voilà, qui grappille un petit peu sur Del Toro mais qui a peut-être pas fait l'écart qu'on pouvait espérer avant le début de cette journée?
Bah écoute, moi je suis doublement content après cette étape parce que j'avoue que avoir un petit faible, avoir toujours un pied pour Remco également.
Ouais.
Et finalement l'enseignement là de ces deux derniers jours, ce qu'on avait un peu tous et moi le premier, enterré Remco sur l'hypothèse d'un futur vainqueur du Tour de France, alors, pas sur cette année, mais on s'était dit qu'il pourrait jamais gagner le Tour de France, alors qu'aujourd'hui ça redevient crédible. Il reste jeune, hein, je crois qu'il a 26 ans, Remco, bah de se dire qu'il pourra en gagner un jour. Ça reste crédible comme Paul Sexa. Et donc voilà, moi j'ai trouvé le chrono vraiment vraiment sympa. Et puis la transformation physique de Remco est aussi intéressante, un petit peu comme avait pu faire un Bradley Wiggins à son époque. Il a, je sais pas combien de kilos il a perdu, mais on voit qu'il est beaucoup plus affûté. Donc ça va être intéressant là, de voir justement sur la haute montagne. Et comme le disait Jérôme, quand on va atteindre des altitudes, pour voir comment son corps réagit.
Pour être complètement crédible, pour gagner un grand tour peut-être encore dans sa carrière. Parce que là, pour être crédible, il faut effectivement qu'il passe la dernière semaine. En étant à la hauteur du statut qu'il veut avoir.
Ouais, c'est ça. Alors après, on sait aussi qu'il a changé sa préparation avec son changement d'équipe, puisque historiquement, il était dans une équipe qui n'était pas taillée pour les grands tours. Hein. L'équipe Quick-Step et tous les dérivés de sponsors qu'ils ont eu les dernières années, c'est une équipe qui a découvert en fait le fait de préparer un candidat à la victoire dans le classement général sur le Tour de France. Mais voilà, on sait j'ai vu des interviews de lui où il dit que justement il a fait évoluer sa préparation avec l'arrivée dans sa nouvelle équipe. Donc voilà, je trouve que c'est un challenger supplémentaire pour Pogacar dans les années à venir, et puis pour Sexas aussi. Et d'ailleurs, ça, je vais vous poser une question, les gars. Je me projette. Ouais. Là, on est en 2030. malgré les efforts de Pierre-Yves Leroux, Christophe Cessieux n'a toujours pas pris sa retraite. Paul Sexas remporte son premier tour. Quel est le podium? Qui est deuxième? Qui est troisième?
Ah ouais, bah là, c'est du vélo fiction que tu veux nous faire. Bah, je sais pas, Jérôme. Sexas, Del Toro et Ayuso.
ça paraît crédible. Après, attention, il y a des jeunes. Piganzoli, par exemple, qui a fait un très bon Giro, qui va bientôt devenir leader chez Visma Lease a Bike. En 2030, c'est pas impossible qu'ils se battent pour le podium du Tour aussi. Mais après, moi, honnêtement, si Paul Sexas gagne en 2030, le deuxième et le troisième, je m'en fous.
Merci Jérôme. Tiens, j'ai un message de Chonchon sur WhatsApp qui me dit: salut la team. Le premier championnat du monde du contre-la-montre en 2015, c'était Andrei Kyrienka.
Vasil
Kyrienka. Oh là, c'est vrai, je craque moi aussi.
Vasil Kyrienka.
Bon, bah écoute.
Je peux dire, cette année-là, le mec qui avait mis le podium dans l'ordre, il a plus besoin de travailler. Il était millionnaire.
Je me souviens, et puis à l'époque, j'étais commentateur vélo sur RMC. Ah ouais, on y avait tellement pas cru qu'on était arrivé le lendemain du contre-la-montre. Ah ouais, à Richmond aux États-Unis. Non, c'est pas qu'on s'était trompé de jour, mon ami. On n'avait pas misé sur le chrono, quoi.
Ah oui, d'accord.
J'arrive, je suis vraiment Jérôme avec sa médaille de bronze.
Ah, merci. C'est mais toujours resté en travers de la gorge, ça, d'ailleurs.
Jérôme, on se retrouve tout à l'heure à 19h dans l'After Tour, évidemment, avec Pierre-Yves Leroux, avec toute l'équipe, avec Richard Vian qui va vous rejoindre, bien sûr, avec les auditeurs. Vous pouvez participer, vous inscrire dès maintenant. Merci Jérôme. Allez, nous, on va parler.
Merci les gars.
Et merci foot. Kevin. Et merci Kevin, exactement. Très bon éditeur. Très bon. Ah oui, il est là, Kevin.
Maîtrise du cyclisme.
Ouais, bien sûr. Bah là, il nous demande déjà de faire les paris pour 2030. Si Christophe Payet des paris RMC était là, il aurait donné la cote et tout déjà. Ou peut-être pas. Allez, les amis, on revient dans un instant. On va parler foot. Puisque la Ligue 1 reprend dans un mois tout juste. Et vous savez que vos clubs, ils ont fait des achats. Hein, et ils ont vendu pendant la Coupe du Monde. Hein, pendant que nous, on était concentrés sur la.
Plus vendu qu'acheté. Ben,
ils sont plus vendus qu'achetés. On va en parler dans un instant avec vous également au 32-16. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Georges Quirino.
On est là avec Stephen Brun.
Oui.
On a appris plein de choses après le chrono.
J'aime bien, moi, c'est Evan O'Boul. Et puis en plus, le cadre magnifique au bord du lac Léman, les images sont exceptionnelles.
Alors en plus, il paraît que tu as déjà fait du vélo autour du lac Léman.
Oui, en trois fois. Et puis j'ai triché, j'ai pris le bateau à Lausanne pour aller à Thonon.
Oui, d'accord, donc tu aurais tapé le record de Evan O'Boul en prenant le bateau. C'est ça, en fait, c'était peut-être la seule moyen de battre Remco, c'était de prendre le bateau à Thonon pour aller jeter à Evian.
Fais-toi, parce que je crois qu'il est à 40 km/h, je suis pas sûr que le bateau est aussi vite.
Oui, c'est pas faux, tu peux arriver après. Dans un instant, Steve, on va parler de Wemby. Pourquoi est-ce qu'il revient avec les Bleus pour la première fois depuis Paris 2024? On va en parler avec Fred Fautoux, le sélectionneur de l'équipe de France. Dans un instant. Ouais, ça t'excite le retour de Wemby, franchement?
Ah, mec, ça fait deux ans que je l'ai pas vu jouer avec le maillot bleu. Plus, et à un moment donné, la dynastie de Victor Wembanyama, certes avec les Spurs, mais son histoire va s'écrire avec les Bleus aussi.
Bien sûr, non, mais il faut pas trouver ça normal. On va en parler dans un instant parce que ça a pas toujours été si évident de voir les stars arriver et mettre le bleu de chaud.
Et on en parlera avec Freddy aussi qui a donné sa liste. Il y a aussi beaucoup. Et c'est la problématique du basket qui n'existe pas au rugby, qui n'existe pas au foot. Au rugby, au foot, t'appelles les mecs pour des matchs de préparation, machin. Les mecs qui sont là au basket, parfois ils font un peu comme ils veulent.
Oui. Bon, après, ils ont des gros contrats à respecter, les assurances, c'est toujours un peu complexe. Bon, on va en parler tout à l'heure avec le sélectionneur. Mais d'abord, tiens, on va parler foot. Est-ce que votre club de Ligue 1 a réussi son mercato pendant la Coupe du Monde? Alors, vous savez que la première journée du championnat, c'est dans un mois tout juste, le vendredi 21 août, avec Marseille, Strasbourg. Tiens, participez avec nous à ce débat 32-16. Et évidemment, on lit vos messages sur WhatsApp au 06 12 424 424. Camille Borin nous rejoint. Salut Camille.
Salut Georges. Salut Camille. Salut, salut à tous.
Alors, Camille, avec toi, on va revenir sur les principaux mouvements des clubs en Ligue 1 que vous avez peut-être raté, auditeurs et auditrices, parce que vous étiez concentrés sur les 104 matchs de la Coupe du Monde à 48. Hein. Donc c'est vrai qu'on est.
On s'est un peu réveillé d'une léthargie, là, j'ai l'impression, tu vois. On s'est rappelé qu'il y avait aussi la Ligue 1.
Je reconnais qu'en préparant l'émission, j'ai appris des choses, mais j'étais un petit peu. J'étais passé à côté. Alors, on va parler évidemment en premier du champion de France. Qu'est-ce qu'on peut dire du champion de France, Camille? Qu'est-ce qui est sûr aujourd'hui, à un mois du début de la compétition?
Alors, déjà, ce qui est sûr, Georges, c'est qu'on verra plus Gonçalo Ramos au PSG la saison prochaine. Voilà, oui. Le super sub, il a été vendu à l'AC Milan, montant du transfert 70 millions d'euros plus d'éventuels bonus. Belle opération du club parisien puisqu'il avait acheté 60 millions hors bonus.
Ah oui.
Et c'est tout simplement le transfert le plus élevé depuis la vente de Neymar à Al Hilal en 2023. Ça, c'était 90 millions d'euros. Donc là, on a un départ, mais on a aussi un retour, celui de Lucas Digne. Info sortie pendant la Coupe du Monde alors que le latéral gauche jouait avec les Bleus. Mais là, ça y est, c'est officiel. Le PSG a levé la clause libératoire de Digne et Aston Villa, le club où il a évolué pendant 4 saisons et qui a remporté la Ligue Europa la saison dernière, eh bien, va récupérer un peu moins de 10 millions d'euros. Il va signer un contrat de 3 ans et je parle de retour parce qu'il ne faut pas oublier que Digne, il avait déjà évolué au PSG il y a 10 ans, entre 2013 et 2016.
Exactement, un bon retour.
C'est très bien.
Ouais, franchement,
je trouve que c'est une très bonne signature, backup de Nuno Mendes. On sait qu'à un moment donné, Nuno Mendes jouait beaucoup de matchs, il n'y avait pas grand chose derrière lui. Lucas Digne à 10 millions, je trouve que c'est un bon tarif pour jouer les matchs de Ligue 1 et les petits matchs de Ligue des Champions. C'est un mec qui a largement le niveau pour jouer derrière Nuno Mendes. C'est très bien, c'est un très bon recrutement pour moi.
Alors celui qui a tout suivi pendant la Coupe du Monde en même temps qu'il suivait l'équipe de France, c'est Fabrice Hawkins qui nous a donné des informations mercato qui vous ont peut-être échappé, mais qu'on va vous rappeler parce que qu'est-ce qu'on peut dire ce qui est en discussion actuellement du côté de Paris, Camille?
Alors au registre de ce qui n'est pas encore signé mais qui devrait l'être prochainement, tu l'as dit Georges, grâce à Fabrice qui nous donne toutes les infos et qu'il a même quand il est à l'autre bout du monde en train de faire la Coupe du Monde. Alors on a le départ de Kang In-Lee à l'Atlético de Madrid pour un peu plus de 40 millions d'euros, bonus compris. Un accord a été trouvé entre les deux clubs et Kang In-Lee va donc retrouver la Liga hein, puisqu'il a déjà évolué avec Valence Valence et Majorque dans le passé. Voilà, c'est pas signé officiellement, mais
c'est très proche.
Voilà, exactement.
Une belle vente encore.
Ouais. Autres arrivées espérées côté parisien. Alors on a l'arrivée possible de Yann Diomandé, vous savez la pépite ivoirienne qui s'est fait remarquer pendant la Coupe du Monde, qui pourrait bien quitter Leipzig et rejoindre le PSG. Alors d'après nos infos, les infos de Fabrice, hein, qu'on soit clair, un accord a été trouvé entre le club et le joueur, qui aurait donc préféré le club parisien à Liverpool, qu'il courtisait également, rien que ça. Durée du potentiel contrat, 5 ans, mais maintenant il va falloir trouver un accord avec Leipzig. Est-ce que dans la presse allemande, on évoque un tarif autour de 130 millions d'euros?
Là, c'est
le tarif de première ligue, ça.
Ah bah oui, mais bon, quand t'es le Paris Saint-Germain, ouais, forcément, les enchères montent très vite. Il y a d'autres joueurs.
Autre joueur pisté par le PSG, Marnes Akliouche. Alors, selon nos informations, un accord a été trouvé, encore une fois, entre le club de la capitale et le milieu offensif de 24 ans, qui a lui aussi disputé la Coupe du Monde avec les Bleus, comme digne. Maintenant, il faut que le PSG et l'AS Monaco trouvent un accord et les négociations ont débuté. Et puis, alors, messieurs, il y a le dossier. Voilà, le dossier Ferran Torres,
le buteur, celui qui a donné la Coupe du Monde à l'Espagne.
Forcément, il a tapé dans l'œil du PSG, hein, parce que quand on marque en finale de Coupe du Monde et qu'on donne la Coupe du Monde à son pays,
mais il avait tapé dans l'œil avant même.
Oui, bien sûr, mais bon, ça a peut-être renforcé un peu l'envie de l'avoir. Bon, pour l'instant, les premiers contacts ont été établis, mais il n'y a pas d'accord ni avec le joueur ni avec le Barça, parce qu'il est sous contrat avec le Barça jusqu'en 2027. Mais bon, on imagine que vu ses récentes performances, le Barça ne va pas.
Il y a un point d'interrogation sur Barcola.
Ouais, Barcola, on est toujours dans le flou. Il lui reste 2 ans de contrat, mais il n'a toujours pas prolongé et il est très courtisé. Et justement, quand la question lui a été posée pendant la Coupe du Monde, il a botté en touche. Il a dit qu'il ne savait pas, qu'il voulait se concentrer sur la Coupe du Monde. Mais bon, là, la Coupe du Monde, elle est finie, donc il va falloir se pencher sur son avenir un peu.
Évidemment, et ça va provoquer beaucoup de choses. Hein. L'avenir de Bradley Barcola, on imagine, ça va être la pierre angulaire du mercato du Paris Saint-Germain, Steve.
Ouais, alors lui, il y a aussi les aspirations du joueur. Est-ce qu'il a encore envie de passer une troisième saison en étant plus ou moins un peu comme en équipe de France, alternant avec Doué, parce que Kvaratskhelia pour moi est inamovible à gauche, il est injouable le Georgien. Est-ce qu'il a envie d'être titulaire dans une autre équipe? Il a gagné 2 fois la Ligue des Champions, peut-être qu'il a envie aussi de s'émanciper. Et son départ après Diomandé qui joue à droite, hein, qui est droit, donc peut-être que le départ va faciliter l'arrivée de Diomandé. La vente, c'est une belle vente. Barcola, ça va être une belle vente. Hein. C'est encore un jeune joueur qui a quand même une belle cote, une très grosse cote sur le marché européen, donc ça pourrait éventuellement permettre d'envoyer les 100 bars sur Diomandé.
Mais en tout cas, c'est intéressant parce qu'il y a plus de mouvements que l'année dernière. Hein. Souvenez-vous, où effectivement, on avait les Parisiens.
Zavarni, Chevalier et...
Et le dernier méchant, il y avait Luca Marin, le gardien de but, qui était arrivé également. Bon, c'était pas énorme. Zavarni, tu l'as dit. Tiens, on a Aubin qui nous appelle au 32-16, supporter du Paris Saint-Germain, nous appelle du Val-de-Marne. Salut Aubin.
Salut les gars, j'espère que tout le monde va bien.
Bah écoute, on va très bien, tu sais, là, on se repenche un petit peu sur nos clubs, là. Je pense que toi aussi, avec tous les supporters du Paris Saint-Germain, vous allez être attentifs.
J'habite à côté de la forêt Greenwood, c'est Aubin des Bois.
Ah oui, bah, ça, c'est pas vrai.
Ouais, bon, moi, en fait, il faut simplement dire à Steve que quand on fait plus des mecs 95, on parle pas de foot, normalement.
Hein? Bon, il y a quelques-uns des joueurs grands, quand même. Manuel Neuer, il est pas très loin. Peter Crouch, ouais. Bon, est-ce qu'il faisait vraiment du
Van Bern?
Colère.
On n'y avait pas pensé à ce quiz, tous les joueurs qui font 2 mètres en foot. Bon, sur Paris Saint-Germain, sur les mouvements qui se préparent, t'en penses quoi? Le départ de Ramos, alors on en parlait entre nous là, avant de évoquer le Paris Saint-Germain, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance que ça peut avoir aussi sur l'équilibre de ces groupes, parce qu'il a quand même apporté beaucoup de choses. Hein.
Ouais, bah en fait, moi, simplement, je fais une différence entre déjà les arrivées et les départs, je trouve que sur les départs, on est pas mal. Gonzalo Ramos, moi j'aime beaucoup ce joueur et je pense qu'il faut qu'il aille s'épanouir ailleurs parce que pour faire banquette au PSG pendant 3 ans, c'est pas intéressant.
Il a donné quoi.
Ouais, voilà, ça y est. Voilà. Et si je veux pas être égoïste, c'est un joueur qui mérite d'être titulaire et qu'il aille être titulaire ailleurs et tant mieux. Moi je trouve qu'au niveau des départs, je suis assez content. C'est au niveau des arrivées que je trouve un peu moyen parce que.
Du temps encore, Ben.
Bah non, c'est pas ça, c'est que regarde, quand j'ai, comme j'ai dit tout à l'heure à Adri au standard, merci, c'est que c'est un très mauvais timing pour Digne. Regarde, on prend un latéral dans la seule grosse équipe où on a un problème de latéral en France, et que de France, on sait qu'on a un problème de latéral.
Oui, mais Aubin, c'est pour jouer derrière Nuno Mendes. Nuno Mendes, il va jouer 80% des gros matchs.
Ça permet de souffler, Mendes.
Mais Cadigne en Ligue 1, le match du dimanche ou du samedi, il peut faire la maille. Aston Villa, il a quasiment été titulaire.
Non, mais Steve, regarde, effectif à ce moment-là, on garde
Hernandez.
L'autre s'arrête de Hernandez.
Bah oui, non, arrête, Bucadine, c'est meilleur.
Ouais, c'est Mobarat.
Arrête.
C'est une charrette.
Bon, respecte les joueurs. Non, mais les joueurs offensifs, les noms qui circulent. Parce que là, voilà, c'est un chantier aussi. Il faut gérer les égos. Il ne faut pas prendre peut-être de méga stars.
Mais Georges, là où tu as raison d'insister sur le départ de Gonçalo Ramos, alors, qui a vécu 2 années. Dans un rôle particulier, parce qu'il se contentait de peu de minutes, c'est que dans la vie de groupe, Gonçalo Ramos, il a été exceptionnel pendant 2 ans. Parce que c'est un garçon qui a quand même un statut d'international portugais, qui a une grande sélection de football. C'est un garçon qui est arrivé avec un énorme statut de très bon numéro 9 en Europe, au Paris Saint-Germain. Il s'est contenté de minutes. Pas une fois, il a eu un mouvement d'humeur.
T'as raison.
Une fois, il a fait la gueule. Pas une fois, quand il rentrait à la 87e, à la 88e, il est arrivé, la tête, il avait pas envie d'y aller. Il a toujours été motivé. Ce garçon-là. Et c'est ultra important d'avoir des garçons comme ça qui acceptent leur rôle. Tu prends un Ferran Torres qui arrive du Barça, si jamais il doit se contenter du rôle de Gonçalo Ramos, je suis pas sûr que Ferran Torres accepte comme Gonçalo Ramos.
Après, au Barça, il était pas titulaire plus tard, hein. Il était dans l'ombre de Lewandowski aussi. C'est pour ça que c'est le genre de profil.
C'est le genre de profil un peu complexe à
trouver. On parlait de Barcola, Aubin. Est-ce que le PSG doit tout faire pour retenir Barcola? Est-ce que c'est un sujet qui t'inquiète?
Alors, est-ce que le PSG doit tout faire? Non, je veux plus que le PSG fasse tout pour garder un joueur. Maintenant, est-ce qu'il faut garder Bradley? Oui, pour moi, il faut le garder. Mais après, il y a aussi ce côté personnel où ça y est, il a gagné 2 Ligues des Champions. Comme tu as dit, il ne veut plus faire banquette. Mais la vérité, c'est que avec le départ de Gonçalo Ramos, ça lui ouvre une vraie possibilité, parce que moi, je suis certain que Gonçalo Ramos. Que Bradley Barcola, il peut évoluer en neuf.
Hein. Enfin, il l'a fait parfois, hein, il l'a fait.
C'est, ouais. Pas, c'est pas dans la tête de Luis Enrique, j'ai l'impression, ce plan-là, Aubin. Hein. C'est Ousmane, et derrière, il y avait Gonçalo Ramos, et là, ils vont prendre un mec pour jouer les minutes quand Ousmane ne sera pas sur le terrain. Je suis pas sûr que dans la tête de Luis Enrique, il se dit, tiens, bah, Bradley Barcola, pour lui filer des minutes, je vais faire jouer un faux numéro 9. Je suis pas sûr que ce soit le plan du technicien espagnol.
Ouais, bon, en tout cas, ça va être intéressant, évidemment, de suivre ce dossier Barcola qui va être un des plus chauds.
Et puis, même pour son avenir en équipe de France, si Barcola il passe une année à jouer en faux neuf, après avec Zidane qui arrive,
peut-être que Zidane mettra Barcola en neuf, Mbappé à gauche et à droite, hein, et voilà, pourquoi pas, il va nous réinventer les bleus, Zizou, hein. On attend toujours l'officialisation de Zizou, je vous rappelle, hein. Ça sera en fin de semaine ou en début de semaine, a priori. Premier match du PSG, ce sera face à Rennes au Parc des Princes. Merci Aubin d'avoir été avec
nous. Merci beaucoup,
au 32-16. De Paris, on va aller à Marseille, Camille, après la 5e place la saison dernière où tout a été chamboulé, on a un nouveau président avec Stéphane Richard, un nouveau directeur sportif avec Grégory Lorenzi, un nouvel entraîneur avec Bruno Genesio, et ça a beaucoup bougé dans l'effectif, enfin surtout dans le sens des départs, hein.
Oui, tout à fait, hein. L'OM déjà a vendu Mason Greenwood, son meilleur buteur, transfert de 39 millions d'euros vers Fenerbahçe avec une partie du montant reversé à Manchester United, donc l'OM devrait récupérer 30 millions d'euros à peu près. Contrat de 4 ans pour Greenwood en Turquie, salaire de 10 millions net par saison. Et puis aussi le départ de Pierre-Emerick Aubameyang qui ne saurait tarder. Il n'est pas parti en stage en Côte d'Ivoire avec l'OM, et l'international gabonais, l'attaquant de 37 ans, devrait partir en Espagne au Deportivo La Corogne, le club galicien fraîchement promu hein, qui retrouve la Liga après 8 ans de relégation. Transfert d'environ 1,5 million d'euros d'après nos confrères de l'équipe. Et puis Ahmed Junior Traoré qui a été prêté au Genoa avec option d'achat estimée à 8 millions d'euros aussi d'après nos confrères de l'équipe. Et puis enfin, on a quand même Benjamin Pavard qui est reparti à l'Inter, parce qu'on l'a peut-être oublié, mais il n'était qu'en prêt à l'OM. La saison dernière. Donc là, il est reparti en Italie où il est sous contrat jusqu'en 2028.
Ouais, là, c'est, voilà, l'OM, Grégory Lorenzi, le directeur sportif, il a été très clair. Voilà, il faut de l'argent, il faut faire rentrer de l'argent.
Exactement. Hein. Déjà, ils ont dû dépenser de l'argent pour lever des options d'achat qui étaient obligatoires. Facundo Medina, ils ont payé 18 millions. Timothy Weah, ils ont payé 14 millions pour les options d'achat obligatoires. Ils sont obligés de vendre. On connaît les problématiques financières de l'Olympique de Marseille. Maintenant, le mercato est encore long. Greg Lorenzi va vouloir sûrement faire des coups. Là, ils sont partis en stage. Ils ont joué un match amical, c'était Nin Mopé et Faris Moumbagna qui étaient en pointe. Tu peux penser que
Faris Moumbagna qui a été blessé toute la saison dernière.
Tu peux éventuellement penser que sur le premier match de la saison, il y a d'autres garçons qui soient en pointe. Et puis voilà. Et puis Bruno Genesio, il connaît les problématiques aussi. Il y a des coups à faire, je pense, pour Greg Lorenzi. C'est aussi ses preuves qu'il doit faire. Greg Lorenzi est arrivé à l'OM, il connaît les problématiques financières. Il faut qu'il fasse comme il avait fait avec Brest, des bons coups avec peut-être un peu plus de masse salariale.
Ah ben c'est sûr qu'il pourra pas faire la même chose que faisait Pablo Longoria et Mehdi Benassia. Il va pas pouvoir envoyer envoyer
des énormes salaires.
Des énormes salaires, hein.
Et voilà. Et puis il faut voir aussi Pierre-Emile Højbjerg aussi qui est convoité aussi, que va faire le Danois, est-ce qu'il va rester à l'Olympique de Marseille ou pas, parce que ça fait partie des énormes salaires aussi de l'Olympique de Marseille. Écoute, il y a un vrai chantier à l'OM.
Ouais, et Mason Greenwood, d'ailleurs, j'ai vu ce matin qu'il a publié une lettre aux supporters marseillais. Ouais, exactement, dans le journal local, dans la Provence.
Il a dit plus de mots sur son post Instagram que qu'en deux ans.
Oui, t'as raison. t'as tout à fait raison. Tiens, on a Loïc, supporter marseillais avec nous au 32-16. Salut Loïc.
Salut messieurs, bonjour.
Salut Loïc.
Bon, t'es dans quel état d'esprit là? Dans un mois tout juste, vous jouez contre Strasbourg, hein, les Marseillais, le premier match. Là,
Strasbourg qui a fait un très beau match amical, ils ont pris 7.
C'est vrai?
Ouais.
Ah ben, tu as les matchs amicaux de Strasbourg, toi.
Non, je veux le résultat.
Toi, tu traînes trop avec Gilbert Bribois, hein, Stephen, je te dis direct. Hein. Bon, Loïc, ouais, t'as entendu là, effectivement, Greenwood parti, Aubameyang parti, Ahmed Julien Traoré parti, Pavard effectivement qui a pas été conservé. Bon, il faut vendre à Marseille. Pour l'instant, il y a pas beaucoup de monde qui arrive, il y a même personne. Comment tu regardes ça, toi, là, un mois de la reprise?
Bah, on est assez inquiet quand même sur l'avenir. On sait que là, ben, les trois joueurs que tu viens de citer, ça ferait 1,5 million par mois à peu près de masse salariale d'économiser. On sait qu'on est surveillé et c'est normal. À un moment donné, quand tu fais all-in chaque saison et que tu retombes jamais sur tes pieds, on a la chance, on a beau le critiquer, l'Américain, on a la chance qu'il remette toujours la main au pot, quoi. Sinon, ce serait sacrément problématique concernant les joueurs. Des joueurs comme Højbjerg, je suis quasi persuadé qu'on l'aura pas pour le mois d'octobre. Hein. C'est certain, s'il part pas il partira en toute fin de mercato. Moi, j'ai hâte de voir si les jeunes vont être intégrés, si ces jeunes-là ont réellement le niveau pour jouer les 6 premières places.
Oui, je te coupe parce qu'on a Paul Seixas sur la route du Tour de France, 4e aujourd'hui au micro de Romain, là en direct sur RMC.
J'ai repris 5 secondes pour la bataille pour le podium. Et forcément, je suis pas forcément super content. Peut-être que Lipovic soit tombé. C'est encore un adversaire qui se blesse et c'est pas comme ça qu'on souhaite que ça se passe. Moi, je préfère quand ça se passe à la pédale et voilà, c'est dommage pour lui. Je souhaite un bon rétablissement, voilà.
Quand on dit que ça devient de plus en plus mental, ça veut dire que vous sentez de la fatigue de plus en plus.
Vous écoutez Paul Seixas en direct sur RMC, après le chrono.
Cette troisième semaine, physiquement parlant.
Physiquement, je me sens encore solide. Je sens que, voilà, les jambes sont toujours là. Ça devient de plus en plus mental parce que tous les jours, on doit se battre. Ça fait 4 jours qu'on passe, 3 jours qu'on se bat pour le général. Donc forcément, c'est une première pour moi et c'est pas facile. Mais pour l'instant, je tiens le coup et je suis content de ce que je fais. Et chaque jour, on nous rapproche un peu plus de Paris. Donc forcément, chaque jour, on a un regain mental encore plus fort. Donc voilà, je suis content de ce qu'on fait et ce que l'équipe fait aussi. Met en place autour pour que je performe.
Paul, t'es en direct sur RMC, t'as un comité de soutien incroyable. Là, on a entendu il y a 2 minutes un fan te dire « Vas-y, Polo, tu vas tous les plumer ». C'est fort, non?
Ouais, forcément, c'est incroyable. Voilà, c'est sûr que le public français est forcément le meilleur soutien que j'ai. Et franchement, merci à vous tous au bord de la route. Vous êtes tous incroyables. Restez bien attentifs quand vous êtes au milieu de la route. Ça fait parfois peur pour nous aussi. Donc faites attention. Et voilà, le plus important, c'est qu'on rentre tous sains et saufs chez nous le soir. Donc faites attention. Mais vous êtes les meilleurs. Et voilà, c'est fou.
5 secondes de général.
On sent que Paul Seixas sur RMC, 4e du chrono aujourd'hui.
J'étais à présent et qu'à 5 secondes du podium.
C'est fou la sérénité.
Je suis à 20 secondes du podium. J'ai repris 5 secondes aujourd'hui. C'est une belle journée. Voilà, Isaac est très très fort. Et Remco et Tadej sont encore au-dessus. Donc voilà, c'est des grands champions. Je suis content de pouvoir me battre contre eux. Et voilà, il reste 5 étapes et 5 jours pour se battre. Donc je suis prêt plus que jamais à me battre.
Paul qui est 4e du général à 20 secondes de Del Toro. Allez, la dernière question, on va pas l'écouter parce qu'elle est en anglais. Ouais, Paul Seixas, là, maintenant il est. Non, mais franchement, il est bluffant quand même. Hein.
Moi, j'aime beaucoup sa première réponse sur Lipovic qui a
abandonné. Ouais.
Et il a une pensée directement pour lui parce qu'il aurait préféré le battre à la régulière. Beaucoup de sérénité, beaucoup de motivation. Et puis mine de rien, il est bon quand il flatte le public, quand il remercie le public et tout ça, il se met avait tout ça dans la poche. Donc il est épatant sur le vélo, mais il est épatant aussi en dehors, hein, derrière les micros, Paul Texas.
Je m'excuse auprès de Loïc, évidemment, notre supporter marseillais. Voilà, c'est priorité au direct, vous le savez, sur RMC.
Il attend,
pour écouter Paul Texas. Non, mais je donne rendez-vous dans l'after, notamment ce soir, au 32-16. Allez notamment à discuter avec Gilbert Bribois et toutes ses équipes. Ce soir, ce sera à 20h. Merci Camille d'avoir été avec nous, Camille Morin. On aura l'occasion de parler de plein de choses. Hein. Le Paris FC qui recrute dans tous les sens.
Ouais, le Paris FC, ce qu'ils sont en train de faire.
Exactement, avec l'arrivée de Sina Yoko aujourd'hui, l'arrivée de Pablo Pagis, hein, les entraîneurs qui arrivent dans tous les sens, Felipe Luis à Monaco.
Ils ont envoyé 25 millions sur le milieu de terrain de Reims, la Zambie, non?
Exactement, non, mais David Ancelotti à Lille, il ne faut pas oublier. Alexandre Duge à Lorient, mais je viens de le dire. Après, si tu rappelles ce que je dis, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Will Steele à Auxerre, tu vas me dire quoi? Will Steele à Auxerre, du coup?
Encore.
Bon. Merci Camille. Évidemment, restez connectés à rmcsport.fr pour avoir toutes les dernières informations. Venez au 32-16 également dans un instant, parler avec le sélectionneur de l'équipe de France de basket, Frédéric Fautoux. On va parler du retour de Wemby en bleu pour la première fois depuis Paris 2024. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Georges Quirino.
On est ensemble jusqu'à 19h évidemment, avant de laisser place à Pierre-Yves Leroux et toute l'équipe de l'Intégral Tour pour l'After Tour. Ils vont revenir sur le chrono remporté par Remco Evenepoel il y a quelques instants. Paul Sexas quatrième du général également. On l'a écouté il y a quelques instants. On aurait pu l'écouter en anglais, franchement, hein, parce que non, franchement, il gère. Impressionnant.
Il a pas de faille pour l'instant, Paul Sexas.
Pas de faille, il y a pas de trou dans la raquette. Non mais c'est une folie. Hein. Donc on attend de voir effectivement. Il est à 20 secondes désormais au général de Del Toro, hein. Il a repris 5 petites secondes. Mais tout de suite, on parle basket, parce qu'au milieu de la folie de la Coupe du Monde de foot, une info vous a peut-être échappé. C'est le retour officiel de Victor Wembanyama cet été avec l'équipe de France. Une première depuis la finale perdue contre Team USA au JO de Paris 2024. Comme Evan Fournier, comme Rudy Gobert, Wemby figure dans la liste des 15 joueurs sélectionnés pour les deux matchs amicaux. Alors, le 20 et le 23 août à Belgrade et Orléans contre la Serbie de
Nikola Jokic.
Ouais, c'est pas mal quand même ça. Hein.
C'est une belle équipe, la Serbie.
Attends, mais c'est un match amical quand t'affrontes la Serbie, franchement.
Non, pas vraiment. Mais le problème, c'est que il avait envie d'affronter une grosse équipe pour préparer la Coupe du Monde. Mais les France-Serbie, ça peut être chaud.
Et après, il y aura la suite des qualifications pour la Coupe du Monde l'année prochaine qui se disputera au Qatar. Hein, avec le début du deuxième tour, les Bleus reçoivent la Slovénie le 27 août à la Cor Arena sans Luka Doncic, forfait, et se déplacent en Suède le 30 août. On se posait la question tout à l'heure, quel serait l'invité pertinent pour parler de toute cette actualité. Hier, t'as passé un coup de fil pour savoir s'il pouvait être avec nous. À Frédéric Fautoux, le sélectionneur de l'équipe de France qui est avec nous. Salut Frédéric.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous dans l'Intégral Sport sur RMC, effectivement, pour revenir sur cette actualité qui a un peu fait parler ce week-end. Et comme il y avait la Coupe du Monde de foot et tout ça, c'est vrai que ça n'a pas été peut-être suffisamment commenté à notre goût. Le retour de Wemby, Frédéric, c'est un événement pour nous, c'est un événement pour vous?
Au lieu d'être un événement, c'est une très bonne nouvelle pour nous tous. C'est vrai que les deux dernières années, Victor n'avait pas pu être là pour différentes raisons. Une d'abord l'été dernier sur blessure, qu'il a eu son problème. Puis la première fenêtre, vu que je venais juste de terminer, c'est playoff NBA. Donc c'est une très bonne nouvelle, parce que si on va avoir des objectifs élevés, en fait, il faut que les joueurs, à un moment donné, ils jouent tous ensemble.
Freddy, j'imagine que ça a été une bonne nouvelle aussi de voir que Victor a signé sa prolongation de contrat avec les Spurs, parce que ça aurait pu éventuellement être un frein. J'imagine que tu as été soulagé quand tu as vu que le contrat avait été signé.
Oui et non. Quand je l'ai eu plusieurs fois en discussion, c'est pas quelque chose qui le perturbait plus que ça. Donc il avait donné il avait validé en tout cas le fait qu'il allait venir bien avant qu'il ne signe. Donc c'était pas quelque chose qui m'a cassé plus que ça, quoi. Voilà. Parce qu'il n'y a pas que Victor en plus dans cette équipe, il y avait d'autres sujets qui me tracassaient, quoi.
Mais dans vos discussions avec Victor, on va parler du sujet qui tracassait dans un instant. Hein. Mais dans les discussions avec Victor, est-ce qu'il a fallu le convaincre pour venir cet été, ou est-ce qu'il était déjà convaincu de son envie?
Ah non, pas du tout. Même l'été dernier, il a hésité jusqu'au dernier moment, malgré son problème de santé. Donc, non, c'est quelqu'un qui est très motivé par l'équipe de France. Et la première fenêtre, il avait dit bien en amont que s'il avait été en finale de conférence, il ne viendrait pas. Donc, non, pas du tout. C'était très fluide. Les discussions qu'on a eues, on a beaucoup parlé et échangé sur le jeu, de comment on avait joué avec lui en attaque, en défense. Donc, c'était plus fluide. Il était convaincu depuis très longtemps qu'il fallait qu'il vienne, parce que, comme il l'a dit, il est très ambitieux, et nous aussi.
Il est dans ce projet bleu. On est avec Frédéric Fautoux, le sélectionneur de l'équipe de France en direct sur RMC dans l'Intégral Sport. Steve.
Ouais, Freddy, on va parler un peu basket parce que avoir Victor dans.
Quoi, j'ai pas posé les questions basket, moi.
Non, là, on va rentrer un peu. Quoi,
l'histoire.
On va rentrer dans la tactique.
C'est dingue.
J'imagine qu'il y a une façon de jouer sans Victor, il y a une façon de jouer avec Victor. J'imagine que t'as déjà réfléchi à tout ça, que il y a des systèmes qui vont être différents déjà. Il y a Rudy Gobert qui est là. On sait que Vincent Collet avait tenté l'association des deux en même temps, Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Je veux pas dire que c'était un échec, mais ça n'a pas été couronné de succès en poule. Est-ce que toi, tu envisages aussi cette doublette-là?
Ben, en tout cas, on va essayer. Ça peut être des armes redoutables de les voir jouer ensemble si on arrive à les connecter, que les joueurs autour d'eux puissent s'exprimer à travers ça. De les faire jouer ensemble, c'est pas l'un et l'autre qui ont marqué 20 points chacun. Oui. C'est les faire jouer ensemble, c'est aussi créer des espaces et des possibilités pour les autres. Donc on va voir comment les deux vont s'emboîter, si on peut dire ça comme ça, et que les trois autres autour, il va falloir trouver des joueurs performants qui puissent jouer avec eux. Donc voilà, c'est aussi l'un des challenges de cette fenêtre là, donc de ces deux matchs amicaux et deux matchs officiels, savoir comment ils pourront jouer ensemble, mais comment aussi on pourra jouer avec eux, sachant bien sûr que Victor prend de plus en plus de place au poste 5, et il aime bien jouer à ce poste là. Donc quand on dit qu'ils vont jouer ensemble, ce n'est pas non plus sur 40 minutes. Voilà, ce sera sur des séquences bien précises. Et puis on verra, quoi. Si on doit chercher des exemples, les frères Gasol ont essayé de jouer ensemble aussi. Et ils sont plutôt bien arrivés.
Ça a plutôt bien fonctionné, hein, à nos dépens.
Ils ont fait 2-3 trucs. Ouais. On n'aime pas trop le rappeler, hein, ici, effectivement.
Les Espagnols, que ce soit au basket ou au foot.
Ouais, ce n'est pas le moment pour rappeler les moments où les Espagnols nous ont battus en général. Hein, en basket ou en foot, passant à autre chose.
J'ai pas parlé de ça.
Non, effectivement. Avec Frédéric Fautoux, le sélectionneur de l'équipe de France. Tiens, Frédéric, d'ailleurs, Victor Wembanyama, on l'a pas revu. On l'a revu. Il était à la finale de la Coupe du Monde. Il était défilé Louis Vuitton à Paris. Oui. On l'a pas revu sur un parquet depuis les finales NBA. J'imagine que vous avez suivi ça avec attention. Est-ce que vous le trouvez encore différent à l'issue de cette année sur ce qu'il a réussi à obtenir dans la progression, je sais pas, dans sa personnalité? Est-ce que dans les échanges que vous avez avec lui aussi, vous le voyez avec une niveau de maturité
en meilleurs échecs?
Je ne sais pas. En tout cas, j'étais pas à la Coupe du Monde de foot pour aller le voir, mais on sait. Ouais, bon. Mais en tout cas, donc on s'est rencontrés à Nanterre. On a beaucoup discuté. Ça a été un entretien très riche et très intéressant. Je trouve que, oui, bien sûr, par la force des choses...
Mais il vous parle de quoi, d'ailleurs, Fred? Parce que c'est intéressant, ça. Il vous parle de système, il vous parle de basket, il vous parle d'ambition.
Ouais, c'est il fallait écouter ma réponse sur la première question.
Oui, non,
on a beaucoup parlé de basket. Excusez-moi, quoi.
Non, mais vous avez vu, c'est pour ça que Steve a dit on va parler de basket. Hein, oui. Voilà, il avait compris le stick avec qui il était.
Ouais, donc oui, on a beaucoup, beaucoup parlé de basket. Donc, de comment on allait attaquer, comment on allait défendre. C'est quelque chose qui intéresse beaucoup. On a parlé beaucoup de ses playoffs et surtout de sa nouvelle notoriété avec les Spurs après les playoffs. C'est quelque chose d'important, je pense, qu'il faut prendre en compte. Mais je trouve qu'il a gardé, puisqu'on a passé une saison ensemble à l'ASVEL, toujours cette même fraîcheur, je trouve, cette même passion qu'il a à Nanterre. Et puis, que je l'ai vu, il ne faisait pas que du basket, il a fait du judo, donc il développe son corps tant qu'il le peut au maximum. Voilà, c'était hyper intéressant de discuter avec lui, et on n'a pas parlé d'échecs.
En fait, ce que vous nous dites, c'est qu'il n'a pas pris la grosse tête, en fait.
Non,
pas du tout, bien au contraire, c'est quelqu'un qui est super posé, qui a vraiment la tête sur les épaules. Et comme je l'ai dit, quoi, il est ambitieux comme nous, et il sait l'importance qu'il a qu'il va avoir dans cette équipe-là. On ne pourra pas se cacher que ça va être le leader parmi d'autres, bien sûr, mais quand même le leader de cette équipe-là. Et il sait que c'est important aussi qu'il vienne, parce que on ne peut pas préparer un championnat du monde ou si on n'a jamais fait d'entraînement ou de match ensemble.
Et vous trouvez qu'il a pris la grosse tête? C'est le mec qui n'est pas du tout, tu sais.
Alors, la quatrième question,
c'était... Dis-moi, on a eu Frédéric Fautoux, le sélectionneur de l'équipe de France de basket.
T'as parlé parler d'un sujet qui est important et qui est un petit peu hors parquet, c'est la notoriété de Victor Wembanyama. J'imagine qu'il y a une gestion particulière quand vous êtes en déplacement, gestion médiatique, parce que là on parle de, c'est un peu Tony à l'époque avec l'équipe de France. Partout où il va se déplacer, il va y avoir des foules devant les hôtels, il va y avoir des foules devant les bus à l'attendre. Est-ce qu'il y a déjà de la prévention là-dessus, une organisation particulière?
Oui, bien sûr, on travaille à ça.
Ah oui.
C'est sûr que Victor aujourd'hui est un personnage plus que public et qui est suivi que pas que par le monde du basket. Donc oui, on fait attention à ça. Frédéric Sard a déjà été repéré l'hôtel à Paris où on va aller. On va mettre des gens autour de lui et de nous. Voilà, donc c'est pas le protéger, mais on va faire attention. De toute façon, aujourd'hui, il y a toute une équipe autour de lui qui travaille déjà très bien par rapport à ça. Donc c'est quelque chose que l'on prend en compte et qu'il va falloir aussi que tout le monde et ses coéquipiers, enfin toute l'équipe comprise, va falloir qu'on fasse les choses bien pour protéger Victor et le groupe.
Tiens, Frédéric, il y a un auditeur, c'est RMC, c'est ça, c'est la place aux auditeurs aussi. Tanguy, fan de basket, qui est avec nous au 32-16. Salut Tanguy.
Par contre, c'est Ali Moujo, Freddy. Hein.
Bonjour à tous.
Bon, Tanguy, tu nous écoutes parler avec le sélectionneur, hein, qui est là, qui t'écoute. Le retour de Wemby, ça doit faire plaisir aux fans de basket en France, évidemment, dont toi.
Hein. Ouais, bien sûr, ça fait exactement, ça fait très chaud au cœur. Moi, si je peux, les gars, j'avais juste une question à Freddy Fautou. C'est concernant Rudy Gobert et son rôle de capitaine. Est-ce qu'il sera maintenu pour les matchs qui viennent? Et pourquoi l'avoir choisi Rudy? Et qu'est-ce qu'il attend de Rudy Gobert en tant que capitaine? Et enfin, une petite dernière question sur Rudy aussi. Est-ce que Rudy est aussi prêt, des fois, à laisser plus de temps à Wemby en 5? Ou comment ça va se passer, cette relation Est-ce qu'il va être prêt à rester un peu sur le banc, Rudy? Ouais.
Vous avez vu, Frédéric, on a les auditeurs qui posent des questions. Hein. C'est pas nos potes. Oui, des questions basket, ça. Réponse.
En vrai, c'est un connaisseur.
Ouais, bien sûr.
Oui, donc en fait, Rudy capitaine lors de la première fenêtre parce que on rentre sur un nouveau process et que je savais que Gershon ne pouvait pas être là non plus pour la semaine de août. Donc il fallait voir d'autres personnes aussi. C'est quelqu'un qui par son éthique de travail, par son exemplarité, par son longévité, me semblait évident que sur cette fenêtre-là, pouvait aussi donner l'exemple sur le chemin à suivre pour avoir de la réussite. Alors c'est sûr que Rudy, c'est pas quelqu'un qui s'exprime comme peut s'exprimer Victor, par exemple. Par contre, c'est quelqu'un qui est dans le travail, a une éthique de travail assez impressionnante, et c'est un très bon exemple. Il y a différents styles de capitaines. Lui, c'est celui-ci. Et puis, bon, on peut pas mettre à côté quoi qu'il a été X fois défenseur de l'année à NBA, qu'il a une grosse carrière là-dessus et qui mérite le respect de tout ça. Est-ce qu'il le sera à la fenêtre de mois d'août? C'est pas sûr. On va discuter avec des uns et des autres parce que c'est quelque chose qu'il faut bien réfléchir. Être capitaine, moi, je me suis fait la réflexion de ça car quand on a vu au foot, c'était Mbappé pour pas Griezmann. Quand on a regardé les péripéties qu'il peut avoir dans différents sports, voilà, ça va être une personne qui doit faire l'unanimité dans un groupe de par sa personnalité ou de par, comme je dis, l'éthique de travail, de par son aura. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on va encore un petit peu réfléchir. Mais quand j'en ai parlé avec Rudy, je lui ai bien dit qu'il était capitaine sur la première fenêtre, mais je savais pas s'il allait être pour la seconde. Et puis effectivement, pour répondre à la deuxième partie de la question, oui, on a parlé avec lui de son entente avec Victor. Et oui, il sait que il pourra pas jouer 30 à 35 minutes et que Victor pourra jouer 30 à 35 minutes. Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on a la carrière qu'a Rudy, je crois que aujourd'hui on comprend aussi plein de choses et que il sait très bien que cette association ne peut pas fonctionner pendant 30-35, mis à part match exceptionnel, et si elle va marcher déjà. Donc oui, il est prêt à accepter que Victor joue sur son poste, parce que tout simplement, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde, sinon le meilleur joueur au monde à son poste aujourd'hui.
Bon, ben voilà, Tanguy, hein, je pense qu'on a un sélectionneur sans langue de bois.
Il t'exagère.
Juste une petite dernière question, juste une affirmation pour savoir si j'ai bien tout compris. Juste là, j'étais sur la route. J'étais en train d'écouter les collègues de First Team avec Eli Okobo. C'était juste pour savoir si la page est bien tournée entre Freddy et Eli après les petites embrouilles Monaco Bourg-en-Bresse.
Ah ouais, là on est parti sur très spécifique.
Ah là c'est très spécifique.
Ah oui.
Ah bah oui. Alors je pense que Eli et moi on est des gros compétiteurs. Et puis là c'était une histoire de club. Donc de toute façon c'est ce qui est sûr, c'est que je mélangerai jamais ce qui est histoire de club et histoire d'équipe nationale.
L'équipe de France est au-dessus de tout.
Exact, exactement. Ouais. Et surtout que Eli, bon, je connais, je le connais depuis très longtemps. Donc, ouais, de toute façon, même après le match, pour moi, il n'y avait plus aucun problème, quoi.
Ça a l'air d'aller, effectivement.
Tout va très bien de ce côté-là.
Merci Tanguy, hein, d'avoir été avec nous au 32-16 pour ton interview avec le sélectionneur national. Bon, Steve, une dernière question avec Freddy Fautoux.
Freddy, on va peut-être parler de choses réjouissantes et peut-être qui t'ont agacé. Dans cette deuxième liste là pour la deuxième fenêtre au mois d'août, il y a des garçons qui sont absents. Tu l'as dit, Gershon, t'avais prévenu qu'il n'était pas là pour la deuxième fenêtre. Bilal Koulibaly n'est pas là, Zakaria Rizaché n'est pas là. J'imagine que pour toi en tant que sélectionneur c'est un problème quand je sais que tu suis le foot et le rugby et ce genre de choses là n'existent pas dans ces sports là. Quand il y a des sélections, les mecs sont là. Est-ce que t'as pas les boules toi que ça soit un petit peu parfois à la carte?
Bah oui, effectivement, c'est super agaçant. Parce que 99% de fois, les joueurs veulent absolument venir. Voilà. Maintenant, ils ont, alors c'est pas dire des pressions, mais il y a des enjeux. On leur demande ils ont des contraintes, on leur demande certaines choses. Ou à un moment où bien sûr ils ne peuvent pas dire non à tout. Donc ça c'est un peu agaçant parce que effectivement, j'aurais aimé, oui, sans moi doute, qu'on ait. Je vais pas dire l'équipe type, mais en tout cas qu'on voit des connexions à ce moment-là. Donc ça va pas se faire. Voilà, moi j'espère un jour, si la NBA Europe arrive, la NBA arrive en Europe par leur nouvelle compétition, j'espère que ça éclaircira beaucoup de choses et montrer quelle importance qu'ont les équipes nationales aussi dans le basket mondial. Voilà, donc on va être un peu patient et j'espère que l'avenir fera que tout ce petit monde pourra se mettre d'accord pour que les équipes nationales puissent briller vers le meilleur joueur.
Merci beaucoup Frédéric Fautoux d'avoir été avec nous.
Ça se passe bien les vacances aux States?
C'est bien, mais je vais finir par les vacances dans le sud-ouest, t'inquiète pas.
Au niveau, pour la gastronomie surtout.
Ouais, bon, oui, c'est surtout. Pas pareil.
Exactement.
Allez, merci d'avoir été avec nous sur RMC. Frédéric Fautoux, sélectionneur de l'équipe nationale de basket de l'équipe de France, pour évoquer le retour de Victor Wembanyama, notamment pour les matchs des Bleus, 20-23 août, face à la Serbie de Niko Jokic. Et ensuite, il y aura les matchs de qualification pour la Coupe du Monde l'année prochaine. Merci Steve.
Merci beaucoup Georges.
Et merci à vous au 32-16. Vous savez, c'est ça RMC, hein. On vous met à l'antenne, vous pouvez poser des questions à des personnalités du sport français, c'est notre ADN tout simplement. Dans un instant, prenez votre place au 32-16. L'after tour arrive après la victoire de Remco Evenepoel sur le chrono. Paul Sexas est quatrième et du général également. Il a repris 5 secondes à Del Toro. Ils vont en parler, Pierre-Yves Leroux et toute l'équipe de l'after tour tout de suite sur RMC. Restez avec nous.
RMC Intégral Sport.